Studio Damani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes du Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires, il est 8h, messieurs, dames, bonjour et bienvenue aux informations. Voici les titres. Présidentielle du 29 juillet, les autorités administratives et communales ont annoncé la tenue du scrutin à Talataï, une commune sous le contrôle de la CMA. Selon elle, des dispositions sont en cours pour assurer la participation effective de la population. Faire comprendre aux hommes de médias les enjeux liés au processus électoral. C'est le but d'une session de formation d'une trentaine de journalistes venus de toutes les régions. Les avis des populations sont partagés sur l'escorte des véhicules sur l'axe Gao-Sévaré instauré par les autorités administratives de la région. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est urgent de réhabiliter plutôt la route pour lutter contre l'insécurité.
Suivez la campagne des candidats à la présidentielle à travers le journal de la campagne de Studio Tamani.
Informer pour comprendre,
dialoguer pour s'entendre.
Studio Tamani accompagne le processus électoral.
À la présentation, Mariam Maïga. L'élection présidentielle du 29 juillet devrait se tenir à Talataï, une commune du cercle d'Ansongo. C'est du moins ce qu'ont déclaré les autorités administratives et communales de cette localité contrôlée par la coordination des mouvements de la Zawad. Selon elles, toutes les dispositions sont en cours pour assurer la participation effective de la population de Talataï à ce scrutin. Les détails avec notre correspondant à Ansongo, Issoufa Moussa Touré.
Depuis 2012, la commune de Talataï n'a participé à aucune élection à cause de l'insécurité. Mais pour la présidentielle du 29 juillet prochain, les autorités administratives et communales rassurent que les dispositions sont prises pour la tenue du scrutin. Amadou Ndakou, sous-préfet de Talataï.
Talataï n'est pas différent du reste des cercles ni du reste des arrondissements ou communes. Nous sommes en train de préparer l'élection. L'élection aura bel et bien lieu à Talataï, comme dans tous les pays.
Selon le sous-préfet Ndakou, la distribution des cartes électorales ainsi que d'autres aspects de l'organisation se déroulent normalement. Toutefois, il assure que la sécurisation de la localité n'est pas de son ressort.
L'aspect sécuritaire, ça, ça ne relève pas de moi. L'aspect sécuritaire, je ne le gère pas. Moi, je gère l'aspect administratif et préparation, organisation de l'élection et nous sommes là-dessus. Les cartes se distribuent normalement comme dans toutes les autres communes, normalement.
Donc l'État est prêt à tenir cette élection à Talataï.
L'État est prêt à tenir l'élection à Talataï et nous sommes en train de le faire.
Les autorités communales de leur côté s'engagent à sécuriser le scrutin du 29 juillet. Ils affirment que la localité va organiser tout le scrutin de cette année. Farouk Aga Fakana, maire de Talataï.
Talataï va assurer la sécurité de ces élections-là jusqu'au bout. Talataï était toujours prêt pour la tenue des élections présidentielles, aussi bien que les législatives, aussi bien que les communales.
Issou Moussa Touré, depuis Ansongo pour Studio Tamani.
Depuis des années, des leaders religieux se sont déployés sur le terrain politique. Certains n'hésitent pas à soutenir ouvertement des candidats. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients du soutien des leaders religieux en faveur de certains candidats? L'implication des groupes religieux est-elle sans risque inévitable au Mali? Écoutons l'analyse de Brema Elidiko, sociologue à l'Université du Mali. Il est joint par Fatih Yatara.
L'idéal aurait été que les religieux soient d'un côté et que ceux qui veulent faire de la politique s'investissent dans le champ politique. Véritablement, ils ont une voix prépondérante à partir de 2013 parce que vous avez vu qu'ils ont ouvertement appelé à voter pour le candidat qui est maintenant devenu président et qui est encore candidat pour sa réélection. À l'époque, les gens ne se sont pas posé beaucoup de questions. À mon avis, dans le contexte actuel de démission des politiques, il va sans dire que les religieux s'investissent. Le jour où on va arriver dans un pays où les politiques vont véritablement être des hommes crédibles qui ne vont pas détourner les deniers de l'État et où le rapport des vérificateurs annuels va démontrer qu'aucun sou n'a été détourné, que l'État est un État où les citoyens les plus méritants en fait, ont des postes et non plus seulement les membres de la famille et donc où l'État va fonctionner comme un État normal. Dans ce cas-là, on pourrait exiger des religieux.
Une trentaine de journalistes venus de toutes les régions ont débuté hier une session de formation sur le rôle des professionnels des médias dans les processus électoraux. Selon les responsables du réseau Médias et Droits de l'Homme, ces trois jours de formation permettront aux journalistes de prendre conscience des enjeux liés au processus électoral. Boukari Daou, président du réseau Médias et Droits de l'Homme, au micro de Ishaka Yatara.
Cette formation porte sur deux aspects. Le premier est de former les journalistes sur tous les textes liés au processus électoral. Le deuxième aspect est de savoir tout ce qui a trait aux droits de l'homme et qui peut être décelé du processus électoral. Il y a beaucoup d'enjeux liés aux élections, donc c'est de former les journalistes sur tous ces aspects liés aux droits de l'homme afin qu'ils puissent œuvrer de sorte que les droits de l'homme soient respectés pendant le processus électoral. Le rôle du journaliste en période électorale, c'est bien d'abord de bien informer ses lecteurs. S'il y a une liberté d'expression, il y a un devoir d'informer. Et pour bien informer, il faut que le journaliste lui-même soit formé. Un journaliste bien formé qui informe dans les règles de l'art de sorte à ce qu'il puisse prendre conscience des enjeux de ces élections.
Si j'étais président.
La parole aux Maliens et aux Maliennes.
Le retour de la paix, la sécurité et le développement, ce sont là des sujets qui préoccupent la population d'Ansongo, une commune située dans la région de Gao au nord du Mali. Dans la rubrique « Si j'étais président » de ce mercredi, des habitants affirment que le nouveau président doit urgemment trouver des réponses à ces questions. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre correspondant d'Ansongo, Issoufa Moussa Touré.
Le futur président, nous attendons de la paix, le développement et l'emploi des jeunes.
Pour le futur président, bon, ce que j'attends du futur, c'est d'abord la sécurité. D'abord.
Merci bien. Le futur président, on attend de lui un président qui, en premier lieu, va s'attaquer à cette crise sécuritaire.
J'attends au futur président la paix et la sécurité.
Et j'attends du futur président la paix, la réconciliation et le développement.
J'attends du nouveau président de la sécurité. Oh oui.
Dans la région de Kaye, depuis lundi, le candidat Cheikh Modibo Diarra était hier dans la commune de Ségala. Il se rendra aujourd'hui à Kolokani dans la région de Koulikoro. C'est ce qui met fin aujourd'hui au journal de la campagne. À présent, cap sur le reste de l'actualité nationale. Sur l'initiative de la plateforme Sauvons la région de Mopti, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté hier sur le boulevard de l'indépendance à Bamako. Elles dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du pays et l'inaction de l'État. L'escorte des véhicules sur l'axe Gao-Sévaré, instaurée par les autorités administratives de la région suite aux nombreuses attaques, ne fait pas l'unanimité. Pendant que certains pensent qu'elle assure la sécurité des voyageurs, d'autres trouvent que l'urgence est à la construction de la route. Notre correspondant Mohamed Lamine Sissé a effectué le voyage sur ce tronçon. Voici son reportage.
Nous sommes sur la route Gao-Sévaré. Ce tronçon de 565 km dégradé depuis quelques années n'est pas facile pour les usagers. Ces derniers sont souvent victimes d'actes de braquage, de viol et de séquestration. Après plusieurs mouvements de colère du syndicat des transporteurs de Gao, les autorités administratives décident alors d'instaurer une escorte des véhicules de Gao. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité.
L'escorte, vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, autant ça c'est sécurise un peu le convoi, mais le fait d'entasser plus de 1000 personnes, parce qu'il y a à peu près une vingtaine de cars et de camions, ça je trouve que c'est dangereux. Je crois que la meilleure solution que l'État doit apporter, c'est vraiment de faire en sorte que la route là soit réparée.
Un avis partagé par certains transporteurs qui pratiquent cette route. Un chauffeur nous raconte, je cite, « Je pense que l'État doit enfin prendre ses responsabilités. Nous avons assez longtemps vécu dans cette situation. Sur ce taxe, nous sommes obligés d'aller à pas de charrette avec tous les risques. L'escorte n'est pas mal, mais il faut reconstruire cette route. » Fin de citation. Malgré les difficultés, notamment le retard accusé par les véhicules, d'autres voyageurs disent se sentir en sécurité avec l'escorte.
L'escorte est très avantageuse pour les passagers parce que les passagers ont été toujours victimes sur la route, des braquages. Il ne peut jamais avoir 3-4 voyages sans avoir été braqué par des bandits armés. Avec l'escorte, on ne sent plus les braquages. On voit que vraiment, on est en sécurité.
Même si elle a permis de réduire les actes de banditisme sur l'axe Gao-Sévaré, l'escorte ne saurait être une solution définitive. Les usagers de cette route demandent sa construction rapide. Mohamed Lamine Sissé sur l'axe Gao-Sévaré pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, le tour d'actualité régionale qui nous amène d'abord à Diré, dans la région de Tombouctou, où les femmes allaitantes et les enfants âgés de 6 à 59 mois ont reçu un don de denrées alimentaires hier au CESCOM. Plus de 2000 personnes ont bénéficié de cette distribution constituée de semoule, d'huile et de chocolat. Ce geste en nature du programme alimentaire mondial exécuté par Plan Mali vise à réduire le taux de malnutrition dans la localité. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, procédera jeudi prochain à l'inauguration de l'usine d'égrenage de coton de Kadjolo. Cette usine, la première du cercle, aura coûté la somme de 12 milliards de nos francs. Les travaux ont duré un peu plus de 3 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car tout à l'heure, vous aurez la version en bambara de cette information avec Mariam Koulibaly.